Mathieu, allô.
Oui, allô?
Voilà, je suis prêt, c'est bon.
Bon, impeccable. Bon, ça va?
Oui, ça va, ça va.
Merci de m'accorder du temps. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? En tout cas, comment vous aimez vous présenter?
Alors, bonjour. C'est toujours très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien, parce qu'avant, je pense que c'était plus simple et que peut-être dans le futur, ce sera un peu différent de se présenter en tant qu'artiste. Je dis ça parce que je pense qu'un artiste n'est plus uniquement un artiste, on va dire avec toute cette manière de voir les choses, peut-être de manière un peu romantique, où c'est un atelier où on a froid et nous sommes dans une solitude absolue. Moi, dans la définition de la présentation, je dirais déjà qu'aujourd'hui, pour moi, la vision d'un artiste, c'est une vision un peu pluridisciplinaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui fabrique des formes, c'est quelqu'un qui pense à des choses, qui pense aussi à des formes, bien sûr, qui regarde sa société, qui réagit par rapport à sa société, qui utilise justement un certain nombre de choses pour pouvoir fabriquer ou en tous les cas produire des œuvres. Et dans cette définition un peu globale, je me retrouve un peu plus dans ce sens-là. Ça veut dire que je ne travaille pas tout seul. C'est-à-dire que Joël existe effectivement en tant que personne, mais c'est aussi une entité où j'ai un certain nombre de personnes qui travaillent avec moi. Ce sont beaucoup d'idées avec des formes par la suite qui sont réalisées à travers différentes matières, sur différentes géographies aussi. Donc ça peut être à Paris, comme ça peut être Antananarivo à Madagascar, comme ça peut être à Istanbul, comme ça peut être effectivement dans la Creuse. Parce que, moi dire, je cite aussi les ateliers que j'ai aujourd'hui. Pour moi, la présentation est quelque chose d'assez complexe, mais peut-être que s'il faut regrouper tout ça et résumer tout ça, je préfère parler être un artiste. Et ce que je suis aujourd'hui, c'est plutôt une personne qui pense aux émotions du monde aujourd'hui, qui les traduit en tous les cas, ou j'essaie de les traduire à travers des formes, avec des matières, pour poser des questions, pour révéler des émotions, et peut-être, ça reste un peu prétentieux en tous les cas, remettre une discussion en place. Voilà. C'est très abstrait, hein.
Non, non, mais ça me va très bien. Enfin, je comprends très bien ce que vous racontez. Vous parlez de différents ateliers. Dans la façon dont vous aimez vous présenter, vous présentez jamais comme un artiste malgache.
Bah, moi, comme je vous ai dit, je pense dans la présentation, je parle de plusieurs géographies. Et
Ouais.
d'ailleurs, donc, je dis même qu'il n'y a pas de géographie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on est un artiste, et je pense justement pas uniquement un artiste, nous n'avons pas, on va dire, cet élément-là n'est pas indispensable. L'élément de nationalité n'est pas quelque chose qui est indispensable pour moi. Ça reste personnel. Je pense qu'on a besoin d'une identité face à l'administration. Je pense qu'on a besoin d'une identité dans un aéroport où vous avez besoin de présenter votre passeport ou une carte d'identité. Mais de manière générale, c'est sûr que je préfère me présenter comme un artiste avec trois géographies, si vous voulez, qu'on les place, parce que je travaille à Paris. J'ai un atelier à Paris et je vis aussi à Paris. Je travaille en Antananarivo à Madagascar. J'ai un atelier et je travaille aussi et je vis là-bas. Et j'ai un autre atelier qui est en plein milieu, effectivement, de la Creuse, qui est à Magnan-l'Étrange, où c'est aussi un endroit, on va dire, pour moi, de prédilection. Donc, c'est à la fois oui, c'est une manière d'affirmer cette multi, voilà, multi, c'est pas du multiculturel, mais en tous les cas, de ces multiples éléments, on va dire, physiques. Je n'ai effectivement pas trois passeports, mais ce serait le rêve. Mais dans tous les cas, dans l'idée, je n'affirme pas forcément l'idée que je suis un artiste malgache en premier lieu. L'âme malgache est derrière, mais elle peut être représentée par une forme française. L'âme française est totalement là. Elle peut être représentée par une forme malgache. La forme malgache est là, mais finalement, elle peut faire référence à une chanson américaine. Et c'est comme ça que je vois le monde. Et c'est comme ça aussi que je définis fondamentalement mon travail.
Et lorsque vous êtes quand même connu pour participer activement au développement de Madagascar dans l'art, en tout cas, est-ce que c'est parce que c'est naturel ou il y avait quand même une volonté, en tout cas peut-être sur les premières années?
Alors, moi, j'aime pas beaucoup le terme développement parce que c'est quelque chose qui peut tromper. On va dire, voilà, je ne suis pas un acteur du développement du tout. Donc, je pense qu'on peut changer un peu ce terme. Peut-être que
Ouais.
je suis plutôt un révélateur.
Ok, ouais,
Voilà,
très bien.
c'est peut-être plus juste.
Ouais.
Ou je suis quelqu'un qui pose des questions, mais en tous les cas, le développement, je ne sais, c'est pas, voilà, je ne sais pas comment ça marche, le développement. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ça.
Très bien.
L'histoire de Madagascar est très simple. Comme je vous le disais au départ, même si je vis à Paris la plupart du temps, et même si je vis la plupart du temps aussi à Madagascar, pour Madagascar est justement une évidence. Autant je ne parle pas de Madagascar, de mon travail, Madagascar n'apparaît pas non plus sur la première ligne, ou en tous les cas, pas tout de suite. Madagascar reste un élément de cœur. Un élément de cœur, c'est le sang aussi qui coule dans mes veines. Ça reste ma terre natale et c'est un territoire, effectivement, un territoire et j'ai beaucoup d'attachements avec ce territoire. Donc pour moi, c'était une évidence aujourd'hui. Dans une carrière, dans une réflexion, dans une envie de parler de Madagascar, d'avoir aussi envie de parler avec des artistes malgaches, de créer des communications avec des personnes à Madagascar. Mais la chose la plus importante, pour moi, c'est pas forcément de parler de Madagascar pour Madagascar, c'est de parler Madagascar qui parle avec le monde. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je prends juste un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, si on prend la France n'existe pas s'il n'y a pas d'autres pays autour, la France n'existe pas s'il n'y a pas des discussions. Et je pense que Madagascar aujourd'hui, en tous les cas, ma vision et comment je vis Madagascar, comment je travaille avec Madagascar, comment j'arrive à trouver des émotions à travers Madagascar, c'est le cœur d'abord. Et après, c'est dans des discussions. C'est toujours des dualités. C'est dans des dualités, mais pas dans des enfermements. Je pense qu'à un moment, il y avait des questions il y avait encore des questions en disant Clermont, New York ou Milan, Tokyo, je sais pas moi, Le Mans. Je pense qu'à un moment, on avait encore des questions comme ça, sur les, on va dire sur, voilà, sur des petites géographies, des grandes géographies. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne veut plus rien dire. Il ne veut plus rien dire. Et c'est, je pense qu'il y a 2 mois, on a bien vu comment ça fonctionnait. C'est qu'aujourd'hui, finalement, on arrive à communiquer avec tout et n'importe quoi. On fait du langage des signes, comme on fait du zoom, comme on fait un appel téléphonique. Donc, si vous voulez, fondamentalement, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire d'être uniquement à Clermont, ou d'être uniquement à Paris, ou d'être uniquement quelque part. Donc, nous sommes presque obligés, justement, de parler comme ça, de parler avec des langages multiples, avec justement des formes multiples. Et avec des géographies multiples, justement. Et il faut que le monde parle au monde. C'est ça la vraie chose.
Quand vous décidez de rentrer à l'école spéciale d'architecture de Paris, vous êtes déjà donc vous avez été formé à l'école d'art de Madagascar, donc vous étiez formé aussi auprès d'artisans. Hein, vous me dites si je me trompe, vous m'arrêtez. Et vous décidez de faire de l'architecture, enfin d'aller de rentrer dans une école d'architecture, mais finalement pour faire un projet entièrement graphique et textile. C'est quelle est votre idée à cette époque-là, là-bas? Quel est votre Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que Parce qu'encore une fois, vous intégrez une école d'architecture, mais finalement pour mieux la détourner. Enfin, c'est ce qu'on comprend en lisant votre
Non,
bio.
je pense que vous avez répondu à la question. Si vous voulez, peut-être qu'aujourd'hui je peux mettre des mots dessus et je peux peut-être le raconter de manière plus simple et plus claire. C'est qu'au départ, c'est sûr que je voyais les artisans. Je n'étais pas dans une école d'art parce qu'à Madagascar, ce n'était pas réellement une école d'art, mais c'est plutôt une école de sensibilisation aux formes artistiques ou aux pratiques artistiques. On va plutôt appeler ça comme ça. Et c'est sûr qu'en ayant déjà expérimenté un certain nombre de choses, de techniques, de médiums, de professionnalisme même si vous voulez, je me suis rendu compte que franchement aller dans une école d'art, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus intéressant. Et justement, je suis allé vers un domaine que je ne connaissais pas. Je pense que dans l'ensemble de mon travail et dans l'ensemble de mon parcours, voilà, ce qui m'intéresse toujours, c'est pas ce qui est acquis, mais justement l'inconnu, le mystérieux, c'est ce qui m'intéresse le plus, pour justement pouvoir expérimenter autre chose, expérimenter d'autres formes, expérimenter d'autres facettes. Et d'ailleurs, on va dire, quand j'explique mon travail de manière, on va dire, plus simple, je ne parle jamais d'un travail. Je n'aime pas ce terme travail. Je préfère parler d'exercice. Et dans un exercice, il y a toujours un challenge. Vous avez toujours un défi. Et j'aime cet élément, finalement, du défi. Et étudier dans une école d'architecture, aller dans une école d'architecture, c'était pour moi un autre défi. Comme aujourd'hui, j'ai des éléments, par exemple, bon, on va dire, beaucoup de personnes connaissent mon travail, on va dire, plutôt textile ou peut-être plutôt au niveau papier avec des très grandes dimensions. Mais par exemple, je suis aussi, voilà, le monde du parfum m'intéresse, le monde de la cuisine m'intéresse. J'en ai pas fait une œuvre encore réelle aujourd'hui, même s'il y a des bribes de choses qui commencent à exister. Mais voilà, ce sont des questionnements. Encore une fois, voilà, ce sont des inconnus. Et j'aime beaucoup ces éléments un peu inconnus. Et dans le monde d'aujourd'hui, je pense que c'est important d'aller chercher l'inconnu. Je vais peut-être parler tout de suite un peu de travail de manière plus précise. Par exemple, le textile, si vous voulez, pour moi, est intéressant. Ouais, j'aime le textile. J'aime le textile parce que c'est à la fois une matière qui est très simple, on va dire, parce que vous avez deux fils qui se croisent, c'est comme ça à la base. Et après, vous poursuivez en fait ces croisements pour en faire des textiles à l'infini. C'est à la fois un médium qui peut parler à tout le monde, hein, parce que nous avons tous un morceau de textile sur nous, mis à part qu'on appelle ça les nudistes. Donc, dans chaque culture, sur chaque personne, on va dire tout le monde, même quand on est mort, finalement, on a un textile sur soi, il faut nous dire. On est avec un textile. Donc j'aime ce côté. C'est au-delà de l'universalité, on a du textile partout. Mais en même temps, c'est un matériau, quand vous le travaillez, il y a toujours une part d'inconnu dans un textile. Il suffit d'un pli, il suffit d'un drapé un peu différent, il suffit d'un autre tombé pour que ça produise autre chose. Et cet inconnu est toujours intéressant. Vous savez, moi, je trouve ça toujours très amusant, par exemple, quand vous mettez un pull dans une machine à laver, même si vous savez exactement que c'est de la laine et que vous mettez à je sais pas combien de degrés, je suis pas très bon pour ça. Il y a toujours une surprise et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Le textile a toujours révèle toujours une surprise. Le textile face au soleil donne autre chose. Le textile par rapport au vent donne autre chose. Le textile par rapport au feu donne autre chose. Le textile sur deux personnes différentes donne autre chose. Et je trouve que c'est intéressant, une matière qui apparemment est totalement maîtrisée, a finalement une grande part de mystère qu'on ne sait pas du tout. Et ça, j'aime bien cette idée.
Mais alors, est-ce que c'est ce mystère, cette question de l'inconnu, est-ce que ce serait ça le fil rouge de votre œuvre, qui du coup on a dit protéiforme, qui a toutes ses facettes, où il y a une question, où il y a encore une question archétypale, qui vous obséderait, que vous cherchez. Vous avez parlé tout à l'heure des émotions du monde. Est-ce qu'il y a une question philosophique comme ça qui vous obsède et qui pourrait permettre de trouver un fil comme ça entre toutes les questions?
Philosophique, non. C'est sûr que entre l'émotion, c'est sûr, mais l'émotion, c'est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas palpable, mais c'est quelque chose qui se produit comme ça, un peu à la ce sont un peu des surprises. Donc, je pense qu'entre la surprise et l'inconnu, vous pouvez effectivement définir certaines choses. Les émotions, le mystère et l'inconnu. Je trouve que c'est ces trois éléments qui pourraient définir tout ça. En sachant que quand je parle de l'inconnu, quand je parle du mystère, quand je parle d'émotions, ce sont des choses effectivement qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas forcément définies. On va dire qu'on ne peut pas définir proprement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, ça se joue, on va dire, la pièce se joue toujours dans un cadre. La pièce se joue toujours sur une scène particulière. Une émotion n'est pas juste produite comme ça. On ne fabrique pas de l'émotion. On fabrique de l'émotion dans un contexte. On fabrique de l'émotion justement dans un temps donné. On fabrique de l'émotion dans un contexte donné. L'inconnu, pareil. L'inconnu, c'est pas forcément l'inconnu. C'est pas le rien. L'inconnu est toujours formaté finalement. Et là, je peux aller un peu plus loin, si vous voulez, comme j'aime beaucoup des thématiques, par exemple, que j'utilise comme ça, comme la mélancolie. La mélancolie n'est pas uniquement une tristesse, c'est un cadre finalement très talentueux, très bien fait pour pouvoir rentrer dans une mélancolie. Et c'est ça que je, voilà, c'est là où je me situe à peu près. C'est un peu pour ça que je suis architecte, c'est un peu pour ça que je fais un exercice, c'est pour ça que l'espace m'intéresse, et en même temps, dans un espace, je peux mettre du textile qui peut réagir en fonction du visiteur, en fonction effectivement de la lumière, en fonction d'un certain nombre de choses.
Ah, clairement, on pourra vous voir dans deux endroits différents, deux musées différents, et le musée Bargoin et la chapelle du musée d'art Roger Quilliot. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup des œuvres qu'on pourra voir?
Alors là au musée Bargoin, donc dans le cadre
Du
du
FIT?
festival FIT, donc c'est trois pièces qui ont été choisies par les commissaires. C'est une série textile qui s'intitule Les horizons complexes de l'amour et d'une romance.
De
Voilà, le
l'amour et d'une
titre
romance
déjà. Voilà.
entre crochets, du coup.
Ben voilà.
Ouais.
Mais ça donne déjà le ton, comme nous ne faisons que parler pour l'instant. Je pense que le titre donne déjà le ton de l'œuvre. Donc c'est un triptyque. Comme vous le dites, la complexité n'est pas uniquement à deux. La complexité est à trois. Ou à plusieurs d'ailleurs. Donc c'est pour ça que le choix déjà est un triptyque. Donc ce sont des pièces textiles qui sont où l'élément le plus fort dans ces pièces sont des horizons. Ce sont des horizons. En fait, vous avez des pièces imprimées, une partie qui est imprimée qui ont des couleurs. Il y a une base en fait qui est placée sur ces pieds, sur ces toiles, pour redonner cet horizon. Cet horizon, après, c'est à chacun aussi d'imaginer les choses. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important on va dire, dans mon travail. Je ne donne jamais de solution. Même si c'est un exercice, il n'y a pas de solution. Il y a une intrigue. Et c'est un peu à chacun de pouvoir développer à travers la matière, la forme et à travers le titre, voilà, ses propres émotions. C'est pour ça que, voilà, le titre, je pense, en dit beaucoup. Ça, c'est pour le musée Bargoin. Pour l'exposition, donc c'est une exposition monographique qui se passera au Marc. Je suis encore dans la conception aujourd'hui de l'exposition, mais je vais vous donner effectivement quelques éléments. Aujourd'hui, j'envahis la chapelle. J'envahis, je dis bien, parce que ça va être quelque chose de grandiose, mais je vais aussi envahir quelques cours du musée et je vais aussi faire quelques interventions en fait dans les collections permanentes du musée. Pour revenir à la chapelle, l'exposition sera quelque chose d'extrêmement mélancolique. Je ne sais pas si, pour l'instant, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a à voir directement avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais en tous les cas, c'est un poème ou c'est un air qui est un peu un air de notre temps. C'est un peu ça l'idée que je voulais mettre dans l'exposition. Donc, il n'y a pas d'axe précis. Il n'y a pas, on va dire, une définition propre en disant je vais parler de telle thématique ou quelque chose, bon, je ne sais pas. Mais je voulais parler d'un air aujourd'hui de notre temps présent. Peut-être une métaphore, peut-être comment on appelle ça, un constat, on va dire, de ce qui se passe. Et du coup, dans la chapelle, ce sera une promenade. On passera justement de quelque chose d'un peu joyeux jusqu'à quelque chose d'extrêmement dramatique ou quelque chose d'extrêmement mélancolique jusqu'à quelque chose d'extrêmement romantique. Voilà, c'est un peu ça le parcours, parce que c'est un parcours que je vais construire. On va passer à travers un gigantesque rideau de théâtre. Il y a une deuxième partie qui sera fabriquée, ce qui sera en fait une forêt, à la fois une forêt vraiment végétale et une forêt textile, pour aboutir à la lumière et à quelques dessins. Et inversement, le parcours inverse aussi sera aussi intéressant par la suite. L'exposition sera rythmée par un air, donc sera rythmée par une bande sonore qui sera extrêmement importante. Aujourd'hui. Ça, voilà, ça va, par exemple, c'est quelque chose que je pense quelques personnes ne connaissent pas encore, c'est que je m'intéresse aussi au son. Par exemple,
D'accord.
sur la pièce de la Biennale de Venise, par exemple, tout le monde a vu du papier noir. Et en fait, la deuxième œuvre qui était présentée était une pièce sonore. Et c'est quelque chose pour moi qui est aussi très important pour rythmer, voilà, pour rythmer les émotions, pour rythmer les battements de nos cœurs. Mais pour le Marc, en tous les cas, c'est pour l'instant, voilà, c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va jongler entre des choses folles, entre des choses douces, entre des choses un peu violentes, entre des choses tendres, et soudainement, il peut se passer quelque chose. Voilà. C'est très abstrait, hein.
Non, mais en plus c'est en cours, c'est ça, hein, ce que vous dites là.
Oui, c'est en cours.
Ouais, c'est en...
Là, je finalise le projet. La semaine prochaine, j'ai mon premier gros rendez-vous technique. Donc, c'est pour ça que je suis encore dans. Mais là, je vous donne juste des éléments, pour l'instant, les axes, des
Ouais,
axes,
les
des
grands
envies,
axes.
des matières. Mais on peut faire un autre rendez-vous pour pouvoir parler
Non,
un peu plus
non, non, non,
de
non,
Marc, aussi de Marc.
non, pas de souci. Et puis, enfin, même si c'est abstrait comme ça s'intègre aussi dans le fil de la discussion. C'est pour ça, d'où l'intérêt un peu d'être revenu un peu aux origines et à vos obsessions pour mieux comprendre un peu ce que vous voulez délivrer. Moi, je voulais juste en savoir quand même un peu plus sur, même si sans trop déflorer hein, l'œuvre, j'ai bien compris que vous aimez bien que les gens réfléchissent par eux-mêmes, mais sur ces horizons complexes avec tous les deux une majuscule. Est-ce que quand même vous pouvez donner deux, trois éléments pour l'intrigue, en tout cas, sur ce titre-là, au moins?
Un horizon, c'est quelque chose d'important. Je pense que à partir du moment où on ne voit plus l'horizon, ça veut dire qu'on ne voit plus le futur, je pense. Donc je pense qu'un horizon, c'est le moment où, voilà, où on se pose. Peut-être on essaie de chercher une perfection ou quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je place cet horizon comme étant une ligne de. L'horizon, c'est comme une ligne de vie. L'horizon, c'est comme voilà, c'est comme la stabilité. Mais après, effectivement, je remets cet adjectif de la complexité à côté de cet horizon. Donc finalement, on jongle toujours entre un horizon stable et un horizon complexe, surtout quand on parle d'amour et de romance. Je pense que je n'ai pas à définir, on veut dire, je n'ai pas à définir des choses dans l'intrigue. Je pense qu'on sait tous que l'amour est fait de joie et de peine. L'amour est fait justement d'absence et de présence. L'amour est fait de vie et de mort. L'amour est fait justement de noir et de blanc. Donc je pense que cet horizon qui divise justement deux territoires en deux, montre bien cette idée finalement ou cette définition en tous les cas de l'amour. Je pense que voilà, c'est à peu près comme ça que je peux raconter les choses. Vous savez, il y a aussi une autre chose qui est très complexe, mis à part, même si je parle, je sais pas comment je parle, mais de temps en temps, parler sans avoir une œuvre en face, c'est toujours très compliqué. Mais c'est sûr que ce titre est là pour interpeller. Ce titre n'est pas là encore une fois, pour affirmer quoi que ce soit. Je n'ai aucune solution par rapport à l'amour. Je sais pas. Non, non, mais justement, je pense que c'est intéressant quand il n'y en a pas. Et c'est peut-être pour ça que je choisis des thématiques de cet ordre-là. C'est justement dans l'amour, il n'y a pas de solution. Dans l'amour, il y a tout. Et c'est surtout le dilemme qui est intéressant. Voilà, tiens, c'est marrant. Je viens de mettre un mot sur la table. Et je pense que ces pièces sont plutôt des dilemmes. Alors, encore une fois, je parle d'amour, mais vous verrez, les pièces sont faussement belles. Elles sont esthétiquement intéressantes, mais derrière, il y a des défauts. Cette peinture imprimée est pas forcément très très belle. Donc je pense que c'est plutôt, si on doit revenir un peu à la thématique, l'amour, etc. Pour moi, justement, je ne donne pas, je ne donne, c'est pas l'amour qui m'intéresse, c'est le etc. qui m'intéresse. Parce que dans le etc., on retrouve l'inconnu, on trouve le mystère. On retrouve le dilemme. Justement, dans etc., il n'y a pas la solution. Donc, si je dois définir des choses comme finalement l'amour, c'est cet espace, en tous les cas, oui, cet espace, cette temporalité où il n'y a pas la solution. Ou justement, c'est peut-être le moment où il faut vraiment vivre l'amour ou ne pas la vivre.
Bon, ben, vous avez fait une formidable conclusion. C'est
Ah
parfait.
bon?
Ouais.
D'accord. Parfait. Très
Mer
bien.
merci beaucoup. Pour ce
À
temps,
bientôt,
à
Mathieu.
très vite. Salut,
Au
merci.
revoir.